France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. On en a connu jadis, dans cet âge qu'on appelait baroque, des musiciens qui faisaient tout, tout, absolument tout autour d'eux-mêmes, qui étaient de grands producteurs de leur propre musique. Eh bien écoutez, aujourd'hui, le modèle se perpétue chez certains rares. Ainsi, mon invité du jour, il est à la fois instrumentiste, chef d'orchestre, créateur de labels discographiques, promoteur, producteur aussi. Il fait tout, mais surtout il fait de la radio avec nous jusqu'à 13h. Nous sommes avec Bruno Procopio. l'ouverture de Zoroastre de Jean-Philippe Rameau. C'était Bruno Procopio qui dirigeait les solistes du Simon Bolivar de Venezuela. Et c'était un disque paru sous le titre Rameau, une Caracas, il y a quelques années sur votre label Parati. Bonjour Bruno Procopio.
Bonjour Lionel.
Les solistes en question, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec vous, mais auparavant, sur le modèle que j'évoquais tout à l'heure, le vôtre de musicien qui fait absolument tout, qui crée son label discographique, Parati, qui joue du clavecin, qui dirige des orchestres un peu partout dans le monde. Modèle baroque, c'est vrai qu'il fonctionnait comme ça, les musiciens jadis, hein?
Je pense que l'unique chose qui peut-être me diffère de ces compositeurs qui faisaient tout à l'époque, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de label discographique.
Oui.
Donc, je pense qu'à l'époque, on avait la possibilité de faire tout, on n'avait pas le choix. Il fallait mettre la main à la pâte, et aujourd'hui également. Sauf que cette technique et cette expérience, on ne nous apprend pas, hélas, au conservatoire. Je pense que désormais, on devrait commencer à apprendre les musiciens à ouvrir les horizons et faire d'autres professions qui viennent, on va dire, compléter notre vie de musicien.
C'est-à-dire qu'instrumentiste, c'est qu'une partie de la vie de musicien, c'est ça? Enfin, c'est là où ça aboutit, mais il y a tout ce qui permet de mettre ça en forme.
Je pense que c'est l'est pour tous. Ouais. Tous les musiciens qui font carrière et tout le monde qui réussit fait tout. On doit juste apprendre comment faire. Donc si ça était encadré, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde.
Ouais, mais c'est compliqué quand même de tout faire. Enfin, vous y arrivez, mais vous m'épatez toujours parce qu'il faut arriver à tout. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, il y a du papier, il y a des choses. C'est pas toujours évident dans un esprit d'artiste. Et puis il faut trouver le temps, tout simplement.
Bien sûr, le temps, tout le monde en trouve. Donc ouais. Après la partie entreprise, je pense qu'il faut savoir déléguer. Et donc si on savait déléguer, évidemment, on pouvait faire beaucoup de choses. On n'est pas obligé de faire tout, mais il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir évidemment donner de l'ordre.
Un musicien qui est aussi un self-made man, on peut dire les choses comme ça. Parati, on est bientôt à son 50e disque, c'est énorme ça.
C'est beaucoup, surtout que j'ai subi hélas deux faillites de distributeurs dans ces 6 années d'existence. Donc maintenant, je suis chez Harmonia Mundi et je croise les doigts pour que l'expérience continue, car ça change tout d'être bien distribué. Donc 50 disques.
Quand même pas mal. On y reviendra là-dessus aussi tout à l'heure. Et puis Rameau, on va parler de Rameau en ouverture puisque c'est lui qu'on vient d'entendre. Là, vous avez vu le documentaire sur Arte, c'était quand samedi soir, je crois, de Olivier Simonet, hein, oui.
Bien entendu, j'ai beaucoup aimé et je salue à tous mes collègues et à tous les musiciens. J'étais ému non seulement par la parole de ceux qui ont parlé, mais aussi par la musique qui a été réalisée. Bravo à France Télévisions pour ce documentaire.
Ben oui, c'est vrai, c'est rare quand même qu'on fasse des choses comme ça sur Arte. Même sur Arte, en
même
fait.
Même sur Arte, pardon. C'était pas sur France
Télévisions. Absolument. Que ce soit aussi pédagogique, aussi informé à la fois et puis bien quand même.
Bien entendu.
Bon. Très bien. Dans un clin d'œil là-dessus, on va y avoir beaucoup dans cette émission avec vous, Bruno Procopio, des clins d'œil. Il y a quelques maîtres, par exemple, ça on ne manque pas. Celui que vous avez choisi parmi tous les clavecinistes qui vous ont transmis l'art de cet instrument, c'est Pierre Antaille. Pourquoi ?
Pour beaucoup de choses, je pense que c'est un des grands maîtres de cet instrument. Et il enseigne le clavecin, il enseigne l'art en faisant. C'était très drôle, j'ai resté son élève pendant 8 ans. Et à chaque fois, il disait, c'est très bien. Il me regardait, et le temps passait, et il jouait. Et je comprenais rien. Et j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'est en côtoyant des maîtres, en les écoutant qu'on apprend. Voilà, le meilleur enseignement, c'est ça. C'est la transmission presque par osmose.
Mais il vous parlez pas du tout?
Il parle très peu, heureusement. Mais il joue beaucoup.
Parce qu'il y a certains qui parlent beaucoup.
Et qui jouent moins.
Par l'exemple, bien sûr, mais il faut arriver à comprendre. C'est quand même pas facile. Vous êtes drôle, vous, parce qu'un exemple comme ça, il faut savoir aussi les trucs, les techniques qui permettent d'aller vers cet idéal-là, non?
Je pense que la technique, pour tout, est très petite. Avec quelques années d'études et un peu de curiosité, on peut l'apprendre. Mais après, quoi faire avec? Comment évoluer son art? Comment savoir travailler? C'est là tout le secret de l'art. Et finalement, c'est la transmission. C'est en écoutant qu'on apprend finalement. C'est en écoutant des bons musiciens qu'on devient nous-mêmes des bons musiciens.
Et en faisant la même chose que...
Au départ, oui.
Au départ, c'est ça.
Oui, évidemment. Il faut savoir reproduire pour comprendre comment ça marche.
Ouais, vous dites évidemment... Et surtout, pardon, je vous interromps, mais il y a plein de musiciens qui disent « je cherche mon originalité à moi ».
Oui, quand on prend par exemple la musique populaire, elle n'est pas une musique écrite, donc on apprend évidemment en écoutant les gens, par une transmission orale. Dans la musique dite classique, évidemment, on côtoie hélas pas ni Rameau, ni Chopin. Comment ils faisaient? On n'en sait rien. Donc évidemment, il faut ces grands maîtres d'aujourd'hui qui ont fait un parcours colossal en créant les choses peut-être d'une manière artificielle et intellectuelle pour arriver au naturel. Voilà l'art. Et donc c'est exactement ça ce qu'il faut, c'est côtoyer ces gens-là pour comprendre l'art. Évidemment, si je parlais de la musique populaire, ça aurait été tout autant valable. C'est exactement la même histoire. Pourquoi on va différer ça dans la musique classique? C'est la même chose. Thank you.
Sonate Kirkpatrick 511 de Domenico Scarlatti. C'était Pierre Antaille qui a enregistré ici. Magnifique là-dedans. Enfin, c'est pas vous, je veux dire ça, bien sûr, hein, Bruno Procopio.
Je suis complètement convaincu. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de vous d'essayer de le faire. On va, puisque vous êtes, je ne me trompe pas, brésilien, c'est bien ça, Bruno.
Un peu.
Né là-bas.
Un peu.
Venu à quel âge en France d'ailleurs?
17 ans. J'avais 17 ans.
Ouais, pour faire la musique, justement?
Oui, exactement. Ouais. Donc, j'ai connu Christophe Rousset au Brésil, dans la ville de Paraty, justement, qui m'a fait l'invitation. J'étais mineur à l'époque. Donc, c'est bien grâce à lui que je fais la musique professionnelle aujourd'hui. Il était également mon professeur pendant des longues années au conservatoire et c'était également un maître qui m'a porté beaucoup.
Ouais. Alors, je disais, puisque vous êtes brésilien, vous avez choisi quelques petites couleurs locales.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Eh ben, dis donc, vous êtes gentil.
Je ne sais pas si vous allez bien réagir à tout ça. Écoutez, vous allez me dire. La première couleur locale, c'était tout simplement le carnaval de Rio qu'on entendait ici au Bruno Procopio. Vous en avez fait beaucoup des carnavals ou est-ce que c'est un truc pour touristes ou c'est vraiment si fort qu'on le dit pour les Brésiliens?
J'aimerais bien tout d'abord vous corriger, cher Lionel.
Oui.
Donc le chant, si je me trompe pas, je pense que je me trompe pas.
Là.
Ce n'est pas à Rio, c'est à Bahia. Ah. Et c'est un chant de fils de Gandhi. Donc c'est une confrérie de la ville de Salvador de Bahia.
D'accord.
Voilà.
Et comment vous l'avez bien connu, pardon, parce que moi, on me dit c'est le carnaval de Rio.
Bah, quand on est un Brésilien, on connaît quelque chose en Urubá, et d'accord, quand on vient de la côte du Brésil, on a côtoyé un petit peu la culture africaine. Donc, on voit tout à fait de quoi ça s'agit, enfin, en tout cas, moi.
D'accord.
Voilà. Et la deuxième couleur, c'était évidemment du Tom Jobim, c'est ça?
Voilà, c'est ça, qui est passé juste sur un petit extrait comme ça, voilà, qui était juste sur.
J'allais pas louper.
Que vous connaissez aussi, bien sûr.
Oh, oui, bien sûr.
Parce que, justement, les musiques, ce qu'on appelle nous populaires, évidemment, il y a comme une sorte de hiatus, de coupure chez nous, entre les musiques populaires et les musiques, en effet, de tradition écrite. Est-ce que c'est le cas pour vous? J'ai l'impression que ça n'a jamais été.
Pour moi, pour le Brésil en tout cas, ouais, c'est évidemment, il y a très peu de lacunes. Évidemment, il y a la musique savante populaire qui s'approche, on va dire, de la musique savante européenne qui n'existe plus, on va dire comme la mazurka, ouais, la polka,
ah oui,
qui était jouée et qui était écrite. Donc au Brésil, il y a par exemple le choro, qui est une samba uniquement instrumentale, écrite. Mmh. Donc là, on est proche du savant, donc il y a même des conservatoires qui l'enseignent. Donc évidemment, cette musique, elle s'affaire à la samba, donc populaire, donc groupe de percussion également avec des instruments harmoniques. Et justement, là, du coup, c'est la pure tradition orale et locale.
D'accord. Mais comment tout ça se marie pour vous? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez eu pour vous un moment un besoin de dire « moi, je suis du côté des cultures savantes » ou est-ce que vraiment il n'y a jamais eu de rupture?
Pour mon cas, j'ai jamais joué de la musique populaire, mais j'ai toujours été baigné dans cet univers d'une manière... j'ai jamais joué. Mais beaucoup de gens jouent autour de moi. Je peux chanter à peu près une soixantaine de musiques par cœur en connaissant tout le texte. Donc, je me rends pas compte. Donc, je ne suis pas musicien populaire, mais effectivement, cette musique, elle fait partie de mon quotidien depuis l'enfance.
Et vous la jouez pas? Vous l'avez jamais joué?
Non, je joue pas. Je joue pas parce qu'il y a pratiquement rien pour le clavier. Et ce qui existe pour le clavier, là, du coup, c'est la musique savante, qui n'est pas adaptée au clavecin.
Enfin, tout de même, chose notable sur votre label, Paraty, on trouve de tout, véritablement.
Heureusement.
De tout. Bah, pourquoi heureusement?
Parce que, il faut faire confiance aux artistes, il faut faire confiance aux musiciens, entrepreneurs, dans le sens large d'entreprendre. Et là, par exemple, je salue évidemment Fanny Azzurro, qui a fait un super disque, qui s'appelle Russian Impulse, autour de Rachmaninov, Prokofiev et Capustine chez Paraty, il y a quelques mois. Et elle-même a proposé, voilà, je vais faire du tango. Mmh. Évidemment, Fanny. Pourquoi on devrait s'en priver? C'est une musique écrite, ils travaillent ça ardument, ils font ça très bien. Donc c'est ça, il faut faire confiance aux artistes qui veulent ouvrir.
Abandonado de Luis Caruana, c'était extrait du dernier disque du quatuor Spiritango. Chichin, il est donc paru sur votre label Paraty, votre label à vous, Bruno Procopio, fondé en 2007. On disait tout à l'heure 50 albums annoncés. Vous en occupez de ce label, c'est-à-dire que vous faites toute la direction artistique ou vous, ça marche comment? Ça dépend peut-être des
C'est quoi la direction
titres,
artistique?
Ah ben, être présent lors de l'enregistrement et puis dire aux gens non, ça, on fait autrement.
Parfois
tout
oui,
ça,
parfois non. Ouais. Donc évidemment, comme tous les labels, même les majors, tout le monde a son ingénieur du son. Avec quelques ingénieurs du son attitrés qui ont fait confiance. Donc évidemment, on envoie son équipe pour l'enregistrement. Je ne sais pas, il y a des enregistrements qui se font à Lisbonne, d'autres s'y font à Berlin, d'autres s'y font au sud de la France. Donc c'est
Vous êtes pas tout le temps
parfois
là,
impossible d'y être partout. Donc il faut juste faire confiance aux ingénieurs du son. Heureusement, ils sont là pour faire ce travail des directions artistiques. Ouais. Donc je ne fais pas forcément.
Dans le contexte actuel, vous vivez comment? Enfin, je veux dire financièrement, parce que ça coûte cher de faire du disque et ça se vend plus, dit-on.
Ah, bonne question. Je crois que c'est le cas de tout le monde, même pour les majors. Sauf si on vend beaucoup, je pense que dans la musique classique, on vend peu, hélas. Il faut un financement tripartite. Donc ça veut dire qu'il faut que les artistes, d'une manière ou d'une autre, mettent la main à la pâte et deviennent de cofinanceurs du produit à un tiers. Donc le label, l'autre tiers. Et la vente, l'autre tiers. Donc, comme ça, on peut arriver avec peu de chance, au seuil de rentabilité.
Mmh. Et évidemment, oui, juste arriver au seuil de rentabilité.
Oui, on peut avoir un peu de gain. Mmh. Je pense que quand les artistes investissent, ils ont l'opportunité de faire de la vente directe et par conséquent récupérer beaucoup. Mais quand on vend un disque à la Fnac à 18 euros, on gagne parfois 5 euros. Je parle bien pour le label discographique, donc c'est beaucoup plus compliqué de la part de label. C'est pour cela qu'il faut évidemment cette entente avec les artistes coproducteurs pour pouvoir faire des disques. Et je pense qu'il ne faut pas voir les choses d'une manière en numéraire uniquement sur la vente. Je pense que le disque fait partie d'un tout. Et c'est aussi une grande valeur ajoutée pour qui permet d'avoir des concerts, qui permettent d'ouvrir de choses et accéder à des choses qu'ils n'ont pas. Donc évidemment, si on regarde juste le chiffre de la vente, ce n'est pas rentable. Mais tout ce qui nous apporte par ailleurs dans la dimension artistique, évidemment, ça apporte beaucoup.
Et vous savez que certains artistes vont pousser des hauts cris parce que vous êtes en train de leur dire maintenant, il faut que vous payiez vos disques, en gros. Ce qui est un petit peu le cas actuellement, mais bon.
Et c'est normal. L'unique chose qu'il faut que ça
change. Normal, je sais pas. Oui. Dans l'économie antérieure.
Oui, dans l'économie intérieure. Le mot est intérieur.
Oui,
dans l'économie future. Donc, il faut juste changer la règle du jeu. Ça veut dire proposer des contrats qui mettent ces musiciens à l'abri et ne pas payer aux royalties fumeuses qu'on utilise depuis des années. Il faut juste utiliser désormais des contrats de producteurs et éditeurs qui permettent aux artistes d'avoir clair et d'investir clairement et récupérer leurs billes. Tout simplement. Il faut les traiter avec responsabilité et il faut avoir du respect envers leur investissement.
Et c'est aussi simple que ça.
France Musique.
J'aime quand c'est aussi simple. Il est midi 22, on va parler de votre dernier disque à vous sur votre label, à vous donc, Bruno Procopio. Il est consacré, ce disque-là, à des sonates particulières de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Il y a toutes deux grandes séries, les sonates prussiennes d'un côté, et puis ceux de Württembourgeoise. C'est comme ça qu'on dit.
C'est ça,
le deuxième
français,
volume
oui.
que vous avez choisi. On va en écouter presque tout de suite un premier extrait, mais auparavant que vous nous présentiez quand même ces six sonates-là, si je compte bien, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier qui fait qu'on va les enregistrer, que vous les enregistrez, vous?
Je pourrais parler des heures, donc je veux dire juste deux choses. Donc il avait une grande crise de goutte. Je crois qu'il mangeait beaucoup de viande et picolait beaucoup, notre cher ami Carl-Philippe, quand il avait à peine 32 ans.
Ouais.
Donc il part à Teplice, en République tchèque, faire une cure. Et c'est là, sur un clavicorde, qu'il compose ses sonates. Évidemment, il dit que c'est pour le clavecin, et véritablement, c'est pour le clavecin.
C'est écrit comme ça sur la partition. Hein.
C'est écrit
cembalo, c'est ça, c'est clavecin.
C'est clavecin, oui, c'est marqué cembalo clairement. Il dit aussi fort et doux. Donc ça veut dire qu'il faut changer de clavier. Donc il faut avoir évidemment un clavecin à deux claviers. Donc c'est véritablement une œuvre pour clavecin. Quoi dire? Donc il avait 32 ans, c'est dans les années 40, au tout début, dans 1741, 42, 43. Bach, il était en train de faire quoi? Le deuxième volume de clavier bien tempéré. Donc voilà.
Bach le père, hein.
Bach le père, oui, c'est ça. Donc on voit deux mondes qui se côtoient, mais qui sont déjà complètement à l'opposé. Et donc voilà le grand génie, c'est proposer vraiment une musique nouvelle dans un temps encore où la fugue règne.
Où la fugue règne chez son père, en tout cas. On va entendre ici qui continue à écrire des fugues et puis plein d'autres choses encore. Et puis voici ce que fait donc Carl-Philippe Emmanuel, alors que le père, faut bien le dire, est encore vivant, ça vous tournez.
Exactement.
Thank you.
L'allegro final de la deuxième sonate dite de Württemberg, Carl-Philipp Emanuel Bach, joué au clavecin par Bruno Procopio. Le disque paraît ces jours-ci sur le label Parati, enfin ces jours-ci, nous, il a paru il y a quelques semaines déjà.
Il y a trois semaines, peut-être.
Trois semaines, voilà, c'est ça. Enfin, on est en plein dedans. Parution 1745, pour être précis, quant aux dates de ceci. Alors, vous me racontiez plein de choses et de petites histoires pendant qu'on essayait d'entendre cette sonate, Bruno Procopio, entre autres sur l'instrument que vous jouez ici, qui est un instrument américain.
Ouais, c'est un instrument de facture américaine. Ouais. C'est pas un instrument, facture moderne américaine. En 1740, je ne connais pas de
clavecin américain.
De clavecin américain, oui. Hélas. Donc, c'est un facteur américain qui s'appelle John Phillips. Ouais. Et vous me posez la question, c'est quel modèle de clavecin? Je dis, c'est un modèle français. Pourquoi un modèle français pour la musique allemande? Ah là 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 là.
Et fait par un américain en plus.
Ah, c'est pas bien. Donc, il ne faut pas oublier qu'en France, les plus grands facteurs de clavecin étaient venus d'Alsace et d'Allemagne, comme Goermans, comme Hemsch. Donc, voilà, donc, cette transformation de la culture allemande au sein même de Paris. Donc je trouve tout à fait logique. Ah, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain écrivain français qui côtoyait la cour de Frédéric II. Donc ce lien entre la France et l'Allemagne...
C'est Voltaire, c'est ça?
Exactement.
C'est ça, oui, d'accord.
Donc, donc le lien entre Paris et l'Allemagne doit être pensé et doit être fait.
Ah, et entre autres par l'instrument. Mais pardon, je reviens à celui-ci. Voilà. Vous choisissez un instrument moderne qui n'est pas vraiment une copie d'ancien non plus, qui est vraiment un instrument pensé comme un clavecin d'aujourd'hui.
Non, tous les clavecins d'aujourd'hui sont pensés comme des instruments anciens. Je ne pense pas que les facteurs ont envie d'apporter quelque chose à la facture, sinon par bien faire selon une tradition. Donc ce clavecin est des traditions françaises, telles Goermans ou telles Hemsch, de la fin du 18e ou de la deuxième moitié du 18e à Paris.
Ouais, mais vous me disiez tout à l'heure, avec des qualités qui n'existaient peut-être pas à l'époque, vous dites qu'elles sont très très longs, c'est ça par exemple?
En fait, c'est difficile à savoir comment c'était à l'époque. Quand on joue des beaux originaux, ils ont ces mêmes caractéristiques. Ah, oui. Donc la grande difficulté, c'est avoir des belles copies. C'est ça la grande difficulté. Le problème, c'est que les originaux s'arrachent à des millions. Mmh. Donc le dernier vendu à Drouot, ça se vend très très cher.
Ah ouais.
Donc du coup...
Il est accessible à un musicien?
Il est accessible à peu de musiciens,
c'est ça.
Malheureusement. Et donc ça reste dans des grandes collections. On a la possibilité de les visiter, de les jouer, même de les enregistrer. Donc moi-même, j'ai déjà enregistré sur deux clavecins originaux. Donc c'est tout à fait normal et accessible, sauf qu'on n'a pas accès à la maison. Là, j'ai voulu acheter ce clavecin pour aller au plus loin dans la démarche instrumentale. Donc,
c'est-à-dire que vous le jouez chez vous et c'est celui que vous avez aussi dans l'enregistrement.
J'ai acheté pour faire cet enregistrement. Ah ouais. Donc j'ai passé une petite année en travaillant uniquement sur cet instrument. D'accord. Pour pouvoir arriver à un naturel qui m'a permis d'enregistrer ce double disque un jour et demi. C'était le but.
Un naturel, dans la musique de Carl-Philipp Emanuel, c'est la chose absolument nécessaire. Parce que s'il y a quelqu'un qui était basé sur l'improvisation et sur le sentiment, hein, pour reprendre le terme de l'époque, c'est bien lui.
Exactement. C'est une musique très complexe parce qu'elle est abrupte, elle change de caractère, de style, d'une manière, donc abrupte. Mmh. Donc il faut apprivoiser, il faut mettre ça, on va dire, dans le discours. Et c'est toute la difficulté, c'est ça. C'est faire de l'abrupt sans que ça soit caricatural, mais avec de l'affect qui sont parfois divergents. Mmh. Donc il faut, je pense que pour jouer cette musique-là, comme la musique de Rameau, qui est une musique un peu appendice, il faut vous me regardez.
Oui, appendice,
c'est-à-dire... ça veut dire une musique qui n'est pas de la tradition d'avant. Car Philippe fait une musique nouvelle, ouais, qui n'est suivie par personne. Il est admiré par Mozart, il est admiré par Beethoven, mais ce style-là, ce qu'on appelle les styles sensibles, il n'est repris par aucun autre compositeur. Mmh. C'est inventé dans le foyer de Bach, par les fils Bach, et ça restait là. Donc, pour comprendre une musique appendice, il faut vraiment l'aimer. Et la musique de Carl Philippe, ce cahier-là, par exemple, c'était un des tout premiers que j'ai commencé à jouer quand j'étais encore enfant. Voilà.
Il y a un côté, je trouve toujours chez Carl-Philipp Emanuel, au clavier Schumann. C'est pas du tout le même langage, mais c'est aussi une musique des humeurs. C'est-à-dire qu'on fait confiance au corps, à ce qu'il nous dit.
C'est exactement ça. C'est atypique quand même dans l'époque baroque. À l'époque baroque, on choisit un carcan de composition et on le fait jusqu'au bout. Mmh. Évidemment, l'affect y passe, mais d'une manière très pensée et saupoudrée aussi d'une manière très rhétorique et très, on va dire, très standard.
En contrebande, quelque part.
Oui, exactement. Mmh. Mais Carl-Philipp fait une manière qui est une musique qui est imprévisible. On ne sait pas où il en va. Et voilà, c'est toute la saveur de cette musique, c'est la surprise.
Vous avez choisi de nous faire entendre ici l'allegro final de cette première sonate du recueil. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des notes partout, c'est ça?
Parce que j'ai passé très longtemps à l'apprivoiser et je suis très content de la partager.
C'est le final de la première sonate dite de Württemberg de Carl-Philipp Emanuel Bach. Bruno Procopio était au clavecin. Impressionnante musique. Non seulement elle est très virtuose, mais on se dit qu'il y a plein de choses dedans qui vont en sortir après Bruno, hein, du Mozart, des Beethoven et d'autres encore.
Exactement. Je disais que ça ressemble même à un certain impromptu de l'opus 90 de Schubert.
De Schubert,
ça on va loin.
Absolument.
La veine va très loin.
Le disque est donc paru il y a peu sur le label Parati.
France Musique.
Un petit regard du côté de chez Proust ou de son questionnaire pour vous, Bruno Procopio. Vous m'avez répondu à plein de questions. Alors, on va essayer de... Non, on va pas faire vite, mais on va aller vers celles qui m'ont le plus surpris. Bon, celle-là ne me surprend pas. Votre principal défaut, l'impatience.
Ah oui.
Oui, vraiment. Non, mais ça se voit un peu quand même.
Ça se voit beaucoup. Oui.
Oui. Vous êtes actif, hein, hyperactif.
J'essaie de me calmer, mais j'ai un peu du mal.
D'accord. Vous dormez beaucoup?
Très peu, malheureusement. J'ai des filles qui ont 3 ans et demi et 5 mois. Là, du coup, je dors encore moins.
Ça vous gêne pas trop en même temps, si?
Quoi, les filles qui se réveillent à 3 heures du matin? Oui.
Ah, je sais pas. À propos de vos filles, tiens, la fleur que vous aimez, elle s'appelle Taïna, c'est quoi ça?
C'est vous pouvez dire le nom technique de la fleur.
La gardenia jasminoïde.
Exactement, et Taïna c'est le nom de ma deuxième fille.
D'accord, que vous avez choisi pour la fleur justement, ou pour la beauté de la chose, du mot?
Pour deux choses, en fait c'est un prénom franco-brésilien. Taïna, parce que c'est une fleur, et donc c'est un nom très très commun dans la Polynésie française.
D'accord.
Et donc c'est la fleur qu'on met à l'oreille. Donc il y a même certains grands peintres qui ont fait des filles avec des fleurs à l'oreille.
Genre des Gauguin et tout ça.
Exactement.
D'accord.
Et au Brésil, donc dans la langue Tupi, dans la langue du Brésil, Taïna, ça veut dire les étoiles.
Non, oh, c'est joli tout ça. Ça fait beaucoup de, en effet, beaucoup de signification avec un seul
Exactement.
Mot. Exactement. Hein. Zurbaran comme peintre favori.
Ah oui. Zurbaran, c'est vraiment l'âge d'or de la peinture espagnole. C'est peu connu. On est Velázquez, l'époque de Velázquez, juste après El Greco. C'est absolument fabuleux. Quand j'ai vu un de vrai, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Et pourtant, ça fait partie d'une école, mais ça sort vraiment du lot.
Oui, ça semble toujours, en effet, quand on voit une toile, on ne sait pas trop d'où ça vient, comme une sorte d'ovni. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est très austère comme peinture.
C'est très austère, mais là, il met vraiment en valeur l'expression du visage, le regard. Et donc, on arrive vraiment à ressentir l'âme du personnage par la proximité de la peinture. La plupart de ses contemporains, même Velázquez, fait des portraits un petit peu plus éloignés, donc dont la forme et l'allégorie, en quelque sorte, est plus mise en valeur. Et Zurbaran est tellement proche de l'homme qu'on sent presque la transpiration.
Mais vous dites ça alors que très souvent on voit quand même pas les visages. Je pense à certains portraits de moines où en effet il y a que la bure et rien de plus.
Voilà.
Comme quoi. Le pays où vous désireriez vivre, Bruno, vous me citez, comme Alexandra David-Nel, c'est à l'étranger que je trouve mon chez-moi.
Exactement.
Oui.
J'ai lu pratiquement toute l'œuvre d'Alexandra David-Nel et un jour elle disait juste avant sa mort qu'elle faisait encore son passeport pour partir en voyage et qu'elle disait que c'est à l'étranger qu'elle trouvait son chez elle. Mmh. Et c'est exactement ça. Donc quand je vais au Brésil, je me sens évidemment chez moi, j'adore ce pays, mais je me sens également à l'étranger. Et c'est quand je suis dans un endroit où je connais pas la langue, je connais pas la culture, et c'est là que tout, je suis vraiment en éveil pour comprendre l'essentiel des choses, et c'est là que je me trouve le plus en phase avec ma réalité, et voilà, donc j'ai un regard très aiguisé quand je suis dans un pays où je connais rien. Mmh.
Vous parlez du Brésil, à nouveau, votre ville préférée, justement, Rio de Janeiro, mais vous me précisez, en l'aimant et en la haïssant, pourquoi ?
Rio de Janeiro, pour qui ne la connaît pas, il faut absolument y aller, c'est une ville captivante, c'est une ville fantastique avec une culture locale incroyable, des montagnes gigantesques qui surplombent la ville avec la forêt tropicale. Ouf, c'est trop de beauté. Ouais. Par contre, quel dommage d'être dans un pays si désorganisé, avec tant de bidonvilles, tant de violences, tant de stress pour pas grand-chose par un manque d'organisation et de bon sens de cette société. Voilà, c'est une ville merveilleuse qui pourrait être davantage meilleure si le peuple brésilien voulait l'arranger.
Ouais, avec aussi du bruit, je crois, beaucoup.
Ouh, pour un musicien. Tout est très bruyant. Ouais. Les bus font un vacarme incroyable dans cette ville. Je pense que le rêve de tous les chauffeurs de bus à Rio, c'est, je sais pas, c'est conduire le 147 qui va de l'Opéra au sud de Paris. Aucun bruit.
Presque aucun bruit, parce que c'est relatif. Voilà. Hein. Votre plus grand regret, alors vous me faites une réponse, ne pas avoir compris une invitation à entrer dans la franc-maçonnerie. Alors là, il faut m'expliquer. Là.
C'est que dans ma famille, il y a une grande tradition de franc-maçons. Et je trouve ça fabuleux, le fait de pouvoir se rencontrer pour penser à quelque chose ou pour proposer quelque chose à la société. Je trouve ça fabuleux.
D'accord. Et un jour, on vous a proposé, vous n'avez pas compris ?
J'ai pas compris. Parce que, comme ma famille fait partie, bon, c'était naturel, bon. Voilà.
Il n'a pas vu la chose. Allez, un dernier. Votre héros dans la vie réelle, vous m'en citez deux. Rameau, on a déjà un peu commenté. Et Claude Lévi-Strauss ?
Oui, Claude Lévi-Strauss, pour plusieurs raisons. Il va mettre en lumière l'être fabuleux qui est, entre guillemets, l'être sauvage. Évidemment, on peut aller très loin, on peut aller même jusqu'à Montaigne pour l'Europe, de la compréhension de la vie sauvage, du sauvage, mais Claude Lévi-Strauss, il met d'une manière vraiment juste ce qu'est le sauvage. Ce sauvage-là, pour la plupart, en tout cas pour le tristropique, c'est lui d'où j'ai grandi, parce que je ne viens pas de la côte du Brésil, je viens de la côte, mais j'ai grandi dans le Mato Grosso, à quelques pas de cette grande réserve qui s'appelle le Xingu, où se trouve c'est la grande réserve indienne du Brésil où j'ai pu aller et rencontrer la plupart des grandes tribus, dont les tribus Bororo qu'il cite dans son livre. Et donc en lisant son livre pour la deuxième fois, cette fois en français, j'ai l'écrit et il m'a répondu et pendant ces dernières années de sa vie, je l'ai rencontré quelques fois. D'accord. Et pour moi c'était aussi une très grande expérience humaine de l'avoir côtoyé.
Très bien, je ne savais pas où vous aviez rencontré Lévi-Strauss.
Bah, il fallait l'écrire.
Fallait vous le demander, mais voulez-vous le demander si je ne le sais pas.
Voilà.
Bon. Allez, on va fermer le questionnaire de Proust avec ceci qui est une madeleine.
A mangueira não pode parar, salve a mangueira, gente!
Falou, padeirinho! Minha mangueira, minha estação. Primeira, estou com você. Mangueira, e você não pode parar. Também sou mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são mangueira, tem o seu nome a zelar. Oh, oh. Minha mangueira, minha estação, primeira estou com você, mangueira e você não pode parar. Também sou mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são mangueira, tem o seu nome a zelar. Sou mangueirense com muita dedicação, tenho as cores da mangueira no meu coração. Seu verde rosa é a cor tradicional. Salve, salve a mangueira e o seu carnaval. Oh, oh.
Minha mangueira, minha estação. Primeira, estou com você. Mangueira, e você não pode parar. Também sou mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são mangueira, terei o seu nome a zelar. Oh, oh. Minha mangueira, minha estação. Primeira, estou com você. Mangueira, e você não pode parar. Também sou mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são
mangueirense com muita dedicação. Tenho as cores da mangueira no meu coração. Seu verde rosa é a cor tradicional. Salve, salve a mangueira e o seu carnaval. Oh, oh. Minha mangueira, minha estação.
estação. Primeira estou com você, Mangueira, e você não pode parar. Porque sou Mangueira e defendo a sua bandeira e todos que são Mangueira, tem o seu nome a zelar. Oh, oh. Minha Mangueira, minha estação. Primeira estou com você, Mangueira, e você não pode parar.
La Madeleine du jour, signée, si j'ose dire, Bruno Procopio, Bette Carvalho, qu'on entendait ici. Vous allez le prononcer très bien juste après
c'est
moi.
C'est exactement ça.
C'est comme ça.
C'est bon.
Bon, et Salve à Mangueira, c'est bien ça aussi.
Salve, eh ben dis donc.
Il a fait des progrès depuis la dernière
fois.
Oui,
hein. C'est ça.
Et c'est quoi Mangueira?
Mangueira, c'est une bidonville. Ouais. C'est aussi une école de samba très connue, très traditionnelle, il y a plus d'un siècle. Qui s'appelle Chapéu Mangueira, le chapeau de Mangueira, parce qu'il d'accord. y avait une fabrique de chapeaux. Et aujourd'hui, c'est une des 10 écoles principales du carnaval de Rio.
De samba. Alors là, Bette Carvalho était là en 1900, enfin dans les années
70-80.
Alors, ok, cette femme que je ne connaissais pas, et puis pourquoi vous l'avez choisie comme Madeleine, Bruno?
Parce qu'elle chante vraiment très bien, mm-hmm. et c'est de la grande samba. Et elle est très connue au Brésil. Je pense que tous les Brésiliens qui sont à l'écoute de France Musique maintenant sont très contents de l'avoir écoutée.
De l'avoir entendue là. Donc c'est pour la faire entendre aux gens du pays. Il fallait que nous parlions, que nous revenions à parler de tout un tas de choses d'actualité, Bruno Procopio, entre autres de Gossec et surtout d'un partenariat que vous êtes en train de faire entre vous-même, le CMBV, le Brésil. Vous me racontez ce qui est encore une aventure.
C'est une très grande aventure. Donc le CMBV,
Centre de musique baroque de Versailles,
bien entendu, le Centre de musique baroque de Versailles a vraiment le souhait d'apporter la musique baroque française, donc qui va jusqu'à la Révolution française. Donc mm-hmm. ils ont un répertoire colossal, un patrimoine très important. Donc ils sont éditeurs, ils ont une maîtrise. Enfin, je pense que tous les mélomanes avertis connaissent mm-hmm. le Centre de musique baroque de Versailles. Donc ils ont la volonté de montrer cette musique au-delà de la frontière française, qui le font déjà depuis un certain temps. Donc, ils m'ont fait la proposition de travailler et de partager cette aventure avec eux et proposer aux grands orchestres d'Amérique du Sud, soit l'Orchestre Symphonique du Brésil, soit l'Orchestre Simon Bolivar, des projets autour de ces répertoires.
D'accord. Et alors, les projets, ce sera autour en particulier de Gossec, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, le CMBV amène les partitions et vous apportez les musiciens, c'est ça?
Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus enrichissant que ça, parce que je peux déjà citer le premier partenariat qui sera donc en septembre prochain. Donc, il y a l'intégrale de pièces de Clessin en concert de Rameau. Ouais. Il y a un deuxième concert avec l'orchestre baroque de l'Université de Rio, donc avec plusieurs solistes français déjà invités. Et donc, on donnera également des masterclass à l'Université de Rio avec donation de partitions. Mmh. Donc, évidemment, à chaque fois que le CMBV se déplacera, ce n'est pas seulement pour faire un partage sec en numéraire, mais évidemment c'est en faisant le maximum pour amener ces grands professionnels français, pour laisser des traces. Et voilà, c'est ça, c'est le grand partenariat qu'on souhaite mettre en place. Mmh. Donc Gossec, évidemment, on a l'espoir et la volonté, évidemment, de monter Thésée de Gossec l'année prochaine, comme nous venons de monter avec l'Orchestre Symphonique du Brésil. Là, cette fois-ci, c'était un partenariat avec la Fondation Bruzané, le Renaud de Sacchini.
D'accord. Et c'est facile, justement, de faire des partenariats comme ça, entre des pays aux esprits, on suppose, tellement différents.
Évidemment pas, c'est très complexe, c'est très compliqué même, étant donné que la logique est différente, les temps sont différents, ouais. parce que la France organise ses saisons avec 2 ans d'anticipation, le Brésil, même l'Orchestre Symphonique du Brésil, qui a quand même 11 millions de réals, donc 4 millions d'euros en programmation par an, ferme leur programmation à 2 mois avant le début de la saison. D'accord. Donc on voit là toute une autre logique. Oui, parce qu'on dépend beaucoup, non seulement de la ville de Rio, mais aussi des mécènes qui font les grandes entreprises qui ferment leur comptabilité à la fin de l'année. Donc c'est juste à la fin de l'année qu'ils vont savoir combien ils peuvent donner. Mais la saison commence 2 mois après, vous voyez. Donc évidemment, c'est là la grande difficulté, c'est mettre en phase des réalités différentes, mais une volonté commune.
Mmh. Thésée de Gossec, avez-vous dit?
Eh bien, oui. Voici.
Yeah.
Le final de Thésée de François-Joseph Gosset, qui s'est dirigé par Guy Van Vass, mais c'est vous qui le dirigerez dans quelques mois, donc au Brésil, hein, Bruno Procopio, à l'invitation du CMBV. Pourquoi avoir choisi justement d'ailleurs Gosset pour faire ce lien entre les deux pays? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs?
Avec le Simon Bolivar, on a fait Rameau. Donc ouais. J'étais deux fois à Caracas pour apprivoiser l'orchestre sur un répertoire ancien avec une écriture particulière et ancienne. Donc je trouve que c'est plus facile, entre guillemets, de commencer à aborder le répertoire français par la musique de la fin du XVIIIe siècle. Donc ça veut dire l'époque des Italiens à Paris, pour citer le premier Gluck, Sacchini, Spontini, etc. Donc Gosset est l'unique à composer dans cette période de véritablement tradition française. Il n'est pas français, il est belge, mais il est francophone. Donc c'est lui qui a mis vraiment en valeur le texte français dans les récitatifs. Donc parmi tous ces grands compositeurs de la période italienne à Paris, Gosset, pour moi, est le meilleur.
Il faut dire aussi qu'en 2016, il y aura un événement qu'on ne voit pas tellement ici en France, mais qui est quand même très important, qui est une certaine mission, Bruno Procopio.
C'est ça, dite mission française. Ouais. Donc en 1816, donc on fêtera...
Il y a deux siècles.
Exactement, deux siècles. Napoléon, comme vous le savez bien, n'est plus au pouvoir, il est renvoyé un peu loin. On organise l'Europe avec un traité de Vienne, et c'est Neukomm qui fait le requiem pour le traité de Vienne, donc invité par Talleyrand. Et donc il est invité par la France, par le biais du duc de Luxembourg, d'aller à Rio mettre en bonne relation le Portugal, chassé par les troupes du général Junot à Lisbonne, avec la France.
Donc
la France.
Donc il a un rôle diplomatique.
Il a un rôle tout à fait diplomatique. Donc il arrive au Brésil. Il n'aura pas sa place en tant que musicien. Donc il a bien essayé. Donc les musiciens locaux, comme celui que je défends beaucoup, Marcos Portugal, est au poste. Il ne laisse rien faire. Mais tout de même, il compose énormément. Donc il fait beaucoup de poèmes symphoniques. Il fait des symphonies. Donc il fait une œuvre, on va dire, monumentale. Et on oublie que c'est quand même un élève de Haydn et un grand compositeur véritablement européen et français. Qui en fêtera donc le 200 ans. La mission française, juste pour finaliser, ça construit tout au Brésil. Donc le roi avait besoin de légitimité. Donc là, c'est l'école de Beaux-Arts, l'école d'architecture, l'école de peinture. Donc il y a un bateau qui s'appelle le Calpe, qui part de France en 1816, qui arrive avec les grands intellectuels peintres, architectes français à Rio, et qui fonde toutes les grandes écoles du Brésil. Voilà. Mmh. Donc si nous, Brésiliens, on a des grandes écoles, c'est bien grâce à vous.
Oh bah écoute, c'est bien, je vous dis, de toute façon, en me regardant, vous savez que j'étais pas encore à l'époque. Mais on comprend bien que ça a une importance, cette mission française au Brésil.
Exactement.
C'est un petit peu matriciel pour ce que deviendra l'art peut-être brésilien aussi d'une certaine manière.
Hein. Et on devrait la mettre en valeur, cette action.
D'accord, très bien. Mais il faut qu'on fasse aussi quelque chose de notre côté.
Ah,
vous
ça
avez,
serait parfait.
Qu'est-ce que vous avez prévu autour de tout ça d'ailleurs en 2016? Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs?
Non, on va laisser au bon moment.
D'accord.
Il y a Gosset, il y a Méhul,
il y a Neukomm
avec différents orchestres nationaux français, mais je ne peux pas dévoiler tout.
D'accord.
Aujourd'hui.
Mais il y aura donc des choses.
Il y aura des belles choses en perspective.
Pour fêter cette mission et ce bicentenaire.
Exactement.
Merci d'être venu nous voir, Bruno Procopio. On va refermer cette émission justement avec Neukomm. C'est vous qui nous apportez l'extrait en question. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il faut
que
vous
racontiez. Je vais vous dire tout de suite. C'est la symphonie qu'il a composée, la toute première, donc s'appelle Symphonie héroïque en ré majeur, qu'il compose en arrivant à Rio de Janeiro. Et cette symphonie, j'ai eu l'opportunité de la diriger il y a 3 semaines avec l'orchestre symphonique du Brésil, donc pour le 450 ans de la ville de Rio. Et à l'époque, elle n'a pas été jouée. Donc, j'ai fait la création pour la création de l'œuvre
qui était jouée pour le Brésil, mais qui n'a jamais été jouée
au Brésil. D'accord. Donc je l'ai dirigée pour la première fois il y a 3 semaines à Rio.
Et c'est bien passé, émotion et tout.
Moi, j'étais très ému. Je pense que les musiciens d'orchestre étaient très contents de faire une belle symphonie classique et pré-romantique. Mais moi, je sais d'où elle vient et je pense que Neukomm l'a attendu quand même 200 ans.
Elle est héroïque, cette grande fantaisie de Sigismund Neukomm. Elle était dirigée ici, dans son final, par Michael Alexander Willens. C'était dit Kölner Academy. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Mathieu Tourin et Jean-François Souvili.